Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Bonjour et bon week-end à tous. Le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka est à son 40e numéro cette semaine. Il est consacré à la sensibilisation des élus du peuple sur les attributions de la Haute Cour de justice. En région, nous serons respectivement dans la première circonscription du 1er arrondissement de Bangui et la deuxième circonscription du 6e. La loi de programmation militaire adoptée cette semaine par la représentation nationale sera aussi au menu. La question orale ou écrite à l'Assemblée nationale est à découvrir. À la présentation, je suis Igor Djeskin Senapaï.
Jean-Yves Bagali.
La partie technique est assurée par Diane Bokula. Une courte pause et c'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka. Une fois de plus, bonjour à tous. La Haute Cour de justice a sensibilisé jeudi les députés sur ses attributions.
Oui, Igor, cette sensibilisation s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en présence du président Moussa Lorongon Baba et de José Christian Lundomo, président de la Haute Cour de justice.
Les députés ont été informés sur le rôle de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement de la Haute Cour de justice, la poursuite des députés auteurs d'infractions, la procédure devant la Haute Cour de justice et l'immunité parlementaire.
Cette rencontre visait à inciter les parlementaires à soutenir davantage la mission de la Haute Cour de justice. Anne-Marie Ngumba, députée de la première circonscription du 5e arrondissement de Bangui, siégeant à la Haute Cour de justice.
Comme vous le savez, une loi selon conformément aux dispositions de la Constitution du 30 mars, une loi organique de Haute Cour de justice a été mise en place. Mais cette haute juridiction, pendant des décennies, n'existait que de nom, dans les textes seulement. Et aujourd'hui, avec les nouvelles autorités du pays, avec le retour à la constitutionnalité, je pense que ce texte mérite qu'il soit connu par l'ensemble des auteurs politiques concernés par son existence d'abord, notamment les parlementaires, les membres également, la population qui a soif de connaître aussi cette bonne gouvernance. Et je pense qu'il était important que les membres de la Haute Cour de justice viennent sensibiliser les députés eux-mêmes et tous ceux qui vont suivre cette activité d'aujourd'hui, c'est très important.
Selon vous, quelle importance les députés ont donné à cette Haute Cour de justice?
Mais vous savez que la Haute Cour de justice, comme je le disais tantôt, c'était l'institution prévue par notre Constitution. La Constitution du 30 mars qui a été mise en place le 24 mars 2017. La loi a été examinée, adoptée le 24 mars 2017 avec la prestation de serment de ses membres. Donc cette haute juridiction, comme je le disais, n'a pas connu son existence dans les années passées. Donc aujourd'hui, si les députés sont là pour être sensibilisés, c'est pour qu'eux-mêmes qui représentent le peuple doivent être imprégnés, même si c'est eux qui ont voté. Vous savez, il y a deux fois où on vote et puis après, bon, on peut voter à la hâte, comme on peut voter et puis mettre la loi de côté. Il faut qu'ils soient vraiment imprégnés pour pouvoir connaître d'abord leurs devoirs et après leurs droits. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'être informés, nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être imprégné de ces textes que nous votons pour pouvoir les vulgariser auprès de nos populations.
Cette institution, de quelle manière collabore avec l'Assemblée nationale?
Vous savez que la Haute Cour de justice, c'est une institution qui prévoit sur sein trois membres de l'Assemblée. Ah oui, je suis membre, je suis juge à la Haute Cour de justice et je représente l'Assemblée nationale avec mes deux autres collègues.
Cette initiative s'inscrit aussi dans le cadre de la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état des droits. Anne-Marie Ngumba.
Je pense que la Haute Cour de justice a son champ d'action. Parce qu'il y a des détournements qui relèvent du droit commun. Mais les détournements d'un membre de l'Assemblée nationale, il y a des devoirs, il y a des obligations. Si, par exemple, un député soit pris en flagrant délit, je pense que c'est la Haute Cour de justice qui va le juger. S'il savait que ce monsieur a dilapidé les fonds publics, automatiquement, il est traduit devant la Haute Cour de justice. Mais néanmoins, pour éviter le chevauchement, je crois que les cours, si je parle de la Cour, ça peut être CPS, ça peut être tribunal de grande instance, bon, mais on voit qui doit juger qui. Mais la Haute Cour de justice doit juger le président de la République, c'est bien spécifié dans le texte, les membres du gouvernement et les députés pour haute trahison. Bon, maintenant, il y a des spécificités. Par exemple, quand on dit qu'un parlementaire si par hasard il représente de la République, s'il fait des affaires, quand on parle des affaires, il faut spécifier quelles affaires. Il peut faire des affaires louches et qui entravent la bonne marche de la République. À ce moment-là, on peut saisir la Haute Cour de justice. Il en est de même pour les députés. Un député qui utilise les armes, par exemple, un député qui vole, un député qui dilapide, un député qui escroque les gens. Bon. Mais la haute est là pour ça. La haute cour de justice est là pour ça. Donc tout ça, tout à l'heure, ça va être expliqué. Et je pense qu'il est très important pour que les gens connaissent leurs devoirs. Et on a les droits, mais on a aussi les devoirs. Parce que je parle du principe qu'un député ou un membre du gouvernement ou les plus hautes autorités de ce pays, ils doivent être des exemples même de la population lambda.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Nous allons faire une descente cette fois-ci dans les différentes circonscriptions électorales, Igor.
Tout à fait. Nous allons rester exclusivement cette semaine ici à Bangui.
Dans la première circonscription du premier arrondissement de Bangui, l'élu de la nation Augustin Agou a mis en place un projet pour assurer la scolarité des enfants des combattants ex-Séléka basés au camp Béal dans sa zone de juridiction.
Tout à fait, Jean-Eude. Ce programme consiste à lutter contre la déperdition scolaire des enfants démunis de cette localité.
Le premier arrondissement se porte très 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 bien. Nous n'avons pas de soucis comme les autres arrondissements. Maintenant, pour répondre précisément à votre question concernant les enfants de nos frères, les ex-Séléka, effectivement, bon, ça ne concerne pas les activités qu'on a commencé à mener dans le premier arrondissement, ne concerne pas exclusivement les enfants des ex-Séléka. Ça concernait tous les enfants dans le premier arrondissement de la ville de Bangui. Surtout les enfants qui sont en âge pour aller à l'école primaire. Et donc, nous avons fait ce constat et je me suis rendu compte que ce n'est pas que là où ils se trouvent, les ex-Séléka, il y a une centaine d'enfants qui ont l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais qui sont là à la maison et qui ne fréquentent pas une école. Mais c'est grave pour l'avenir de notre pays, la République centrafricaine. Ces enfants-là, s'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'école, s'ils ne savent pas écrire leur nom et leur prénom, que deviendra leur avenir de demain par rapport à notre pays, la République centrafricaine? C'est un risque pour nous encore de continuer à faire sortir encore d'autres Séléka et ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que quand l'homme n'est pas instruit, il est facilement manipulable. Il est à la merci de tout les prédateurs de la République centrafricaine. Donc voilà ce qui nous a poussé à aller vers eux, sélectionner ces enfants-là, revenir vers l'école Transivilla, collaborer avec le directeur de A et B, organiser des tests pour voir cet enfant-là capable de faire quelle classe, ainsi de suite. C'est ce que nous avons fait. Et par la suite, il fallait payer l'assurance, s'occuper du reste pour que les enfants, aujourd'hui, merci à Dieu, et que ces enfants-là ont repris le chemin de l'école.
Vous avez ce projet, vous pouvez l'évaluer à combien?
Vous savez, moi je suis chrétien, c'est n'est pas un chrétien, la Bible dit, ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir.
Vous avez un message à vous administrer?
Non, le message c'est d'abord de commencer, ce n'est pas à souhaiter une heureuse fête de Noël à mes électeurs. C'est une grande fête que je pense qu'on doit célébrer, on doit louer notre Dieu, on doit remercier notre Dieu de nous avoir nous protéger. Dieu nous a protégés pendant les 12 mois de l'année 2018. Dans le premier arrondissement, il y a eu quelques cas de décès, il y a eu quelques cas de maladies, mais si on évalue, au moins 99,2% de la population sont en bonne santé, donc nous rendons la gloire à Dieu.
Dans la deuxième circonscription du 6e arrondissement de Bangui, le parlementaire Denis Modemadé a aussi remis des kits d'activités génératrices de revenus aux femmes de sa zone.
Effectivement, Igor, ces kits sont composés de farine, d'huile de table, sucre, du café, poisson, des sacs de manioc, des poulets congelés et des bananes plantains. Cette donation permettra aux bénéficiaires de se lancer dans les petits commerces afin de lutter contre la pauvreté. Denis Modemadé.
J'avais dit qu'une fois élu, j'allais soutenir les femmes. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Mais en réalité, en soutenant les femmes qui se lancent dans des activités génératrices de revenus. Ces femmes, également, vous savez, sur le plan social, constituent le fondement des foyers. Lorsqu'on aide ces femmes à se rendre plus compétitives, à se rendre plus utile, c'est un foyer, c'est un ménage qu'on soutient. Donc, en le faisant, je ne fais que être fidèle à mes projets de société et à ces promesses que j'avais faites à la population qui avait donc porté son choix sur moi. Les bénéficiaires ont été effectivement formés, ont été suffisamment sensibilisés sur ce qu'on a prévu leur donner pour qu'il n'y ait pas confusion. Parce que nous, on a donné du poisson, on a donné des poulets, on a donné que des produits fourriers. S'il n'y a pas de formation, naturellement, il y aura confusion. Les gens vont prendre et ils vont consommer. Et donc, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Donc, on les a sensibilisés sur l'utilité à bon échéant des produits qu'on a mis à leur disposition. Tel qu'on a commencé à Kwetene 2, naturellement, nous devons faire dans tous les quartiers pour ne pas également essuyer des critiques. Je crois qu'après Kwetene 2, il y aura une autre étape. Et notre objectif, c'est d'atteindre tous les quartiers contenu dans notre arrondissement.
Aujourd'hui, un message à ses bénéficiaires, ça sera lequel?
Oui, il y a un message, je leur ai dit de faire un bon usage de toutes les façons. C'est rien du tout, c'est peu de choses. Mais si ces femmes-là en font un très bon usage, naturellement, ça pourrait les aider à progresser dans leur activité. Il faudrait que ces femmes utilisent ces produits-là pour progresser. C'est le conseil qu'on leur a prodigué et je crois que c'est des gens qui ont bien écouté ces conseils et qui pourront utilement utiliser ces conseils pour s'émanciper. Le but de rechercher ici, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages.
Les Centrafricains se sont exprimés cette semaine sur l'adoption de la loi sur la programmation militaire. Écoutons leur point de vue.
Je dirais que c'est une bonne chose, premièrement, parce que ça permet d'abord, au niveau de l'autre gouvernement, de sécuriser la population centrafricaine, parce que tous ces derniers moments, en ce qui concerne notre sécurité, ça a été vraiment bafoué. Et je suis vraiment contente d'avoir ça.
C'est une bonne chose que le gouvernement a pu établir. La loi a été votée. Bien avant, il faut une prise de conscience et un changement de mentalité. Il est vrai, la loi a été votée. Il faut le décaissement. Compte tenu du recrutement qui vient à peine de passer, il y a des gens qui sont partis, ils ont 25 ans, 26 ans, ils sont partis du meilleur âge. Ça aussi, ça joue. Il faut prendre des gens valides.
Pour moi, c'est une bonne voie.
C'est une très bonne initiative qui a été, au fait, approuvée par l'Assemblée nationale. Parce que vous êtes sans ignorer que la République centrafricaine a besoin de la montée en puissance des FACA. Donc, étant donné qu'on a eu à traverser un certain nombre de crises, d'où pour le moment, ce qui est très, très important, c'est juste la montée en puissance des FACA. Alors, je pense que la loi va permettre, en vue, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, on va mettre en puissance ou encore l'activité, au fait, les FACA. Parce que la loi a été adoptée, mais il va falloir mobiliser les moyens pour pouvoir accomplir.
Comme la loi elle est votée, là, il appartient maintenant au gouvernement de chercher les voies et moyens, de mettre en œuvre ce qui a été voté, pour ne pas que d'ici demain, on se dise encore que voilà, nous avons voté et puis nous avons marché encore dessus, puisqu'on ne veut plus entendre.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Maintenant, Igor, nous allons revenir vers le député Marcel Haroun Chef, vice-président de la commission défense à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, le chef d'État, par sa volonté politique, décide à ce que ce projet revienne encore au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter. Et je vois que ce projet de loi, c'est une fois comme on a déjà voté aujourd'hui, je crois que ça serait une bonne chose pour la population. Si le président décide aujourd'hui de faire l'armée des garnisons au lieu de l'armée de projection, ça serait une bonne chose. Nous, notre souci au niveau de l'Assemblée, que la population ait à sa côté une sécurité.
Après l'adoption, là, qu'est-ce que nous attendons pour que la loi là, soit vraiment effective?
Oui, au fait, après ce vote, nous, ce que nous attendons, c'est le financement. Sans financement, on ne peut pas vraiment asseoir notre armée. C'est ce qui nous inquiète au début. Mais au moins, nous avons fait appel à l'autre, là, au ministre des Finances, qui nous a rassuré qu'il va toujours aller vers nos partenaires traditionnels pour solliciter des aides afin de mettre en exécution ce projet de loi.
Quelles sont les dispositions dans ce projet de loi?
Dans ce projet de loi, c'est la répartition de nos armées. Dans les quatre zones décidées pour faire la base de projection. Ensuite, ce que je peux ajouter dessus, c'est le recrutement. Le recrutement qui est dit. De 2019 en 2023, nous aurons 9 800 militaires. Donc, nous avons 18 900 000 dans le projet de loi de finances. Et aujourd'hui, il nous reste peut-être une gap de 7 milliards pour combler. On peut arriver à 25 milliards de francs CFA pour faire tout ce qui est nécessaire pour notre armée. Les partenaires ont demandé à la République centrafricaine de faire sa contribution à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Et le reste, ce serait peut-être les partenaires qui pourront nous aider.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka, depuis Berberati dans l'Almambéry Kadé. Qu'est-ce qu'une question écrite ou orale à l'Assemblée nationale? Nous allons en savoir davantage avec le président de l'Assemblée nationale, Moussa Laurent Gonbaba.
La question orale, la question écrite sont des pratiques parlementaires qui sont prévues dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La question écrite est le moyen par lequel les députés adressent des questions précises, n'est-ce pas, par écrit au gouvernement. Et une fois par semaine, les membres du gouvernement qui ont reçu ces questions écrites ou orales répondent devant l'Assemblée nationale et apportent les éléments de réponse aux questions posées. S'il s'agit des questions orales sans débat, c'est-à-dire le ministre viendra, il va répondre précisément à la question qui a été posée et il n'y aura pas de débat qui va s'ensuivre. Sauf si l'auteur de la question qui a posé la question n'est pas satisfait, il peut reprendre, n'est-ce pas, la question pour mieux éclairer le membre du gouvernement. Toutefois, s'il y a des questions écrites qui nécessitent des débats, alors un débat sera ouvert à la suite des réponses apportées par le membre du gouvernement. Et donc, c'est un débat qui est limité dans le temps et dans l'espace. Voilà ce qu'on appelle les questions écrites ou orales.
Ainsi s'achève cette rencontre hebdomadaire consacrée aux activités des élus de la nation. Nous disons merci à tous ceux qui l'ont suivi. C'était une présentation de Igor Djeskin et Sénapaye.
Jean-Yves Bagali.
À la gestion numérique, nous avons Diane Bokula. Nous remercions aussi le staff de communication de l'Assemblée nationale. Portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.